Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes cet incroyable le lundi 29 mars, il est 8h30, avec moi Corto, salut Corto.
Eh bien le bonjour Ben, bonjour Marie.
C'est cool les démarrages comme ça en mono, c'est génial.
Ouais, c'est super. Hein.
Au programme de cette matinale, et tu l'as dit Corto, nous sommes avec Marie, bonjour.
Bonjour.
Tu as été enseignante dans une école Montessori, tu es venue nous voir parce que tu as envie de faire une voire des émissions sur les pédagogies alternatives, c'est super. C'était donc l'occasion, puisque ce sujet nous intéresse ici à Radio Bartas, de faire une matinale pour ça. Ce sera l'occasion du coup de réécouter Nathalie qui est prof et directrice de l'école de Vébron et qui prodigue une pédagogie alternative. L'occasion faisant le larron, on réécoute ça en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique évidemment comme d'hab, mais on commence si tu veux bien Corto par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. La répression est montée d'un cran ce samedi 27 mars en Birmanie. Selon les Nations Unies, 107 personnes, dont 7 enfants, ont été tuées lors d'une nouvelle série de manifestations pro-démocratie dans tout le pays. Les médias locaux font eux état de 114 morts. Il s'agit du plus lourd bilan depuis le coup d'état de l'armée dans le pays le 1er février dernier. Plus de 423 personnes auraient perdu la vie dans le conflit depuis cette date, selon l'Assistance Association for Political Prisoners, AAPP, une ONG locale. Samedi, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les habitants qui manifestaient en réponse à la journée des forces armées. Ce gigantesque défilé militaire, organisé devant le chef de la Tatmadaw, qui est l'armée birmane, désormais chef de la junte au pouvoir. Il s'agit aussi d'une tentative de légitimisation pour le pouvoir après des semaines de contestation du putsch, notamment dans la jeunesse, c'est ce que révèle le journal indépendant birman Frontier Myanmar. Alors attention, tenez-vous bien, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a désingué. Tirez les leçons de ceux qui sont morts brutalement et ne mourrez pas pour rien, c'est ce qu'a déclaré le général à la télévision publique ces derniers jours. La répression s'est poursuivie dimanche, alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, la junte ouvrant même le feu à l'occasion du rassemblement autour des morts de la veille ou près d'un hôpital à Yangon. Une nouvelle fois, l'ONU a sévèrement condamné la situation. L'organisation a dénoncé dans un tweet une violence choquante ainsi que des arrestations massives. Cette violence rend d'autant plus illégitime le coup d'État et aggrave la culpabilité de ses dirigeants, a poursuivi le Haut Commissariat sur le réseau social. Une terrible effusion de sang aussi pour l'ambassadeur américain en Birmanie, Thomas Vadja, selon qui les Birmans ont été clairs, ils ne veulent plus vivre sous un régime militaire. La délégation de l'Union européenne dans le pays a évoqué de son côté un jour de terreur et de déshonneur. Mais la junte conserve des soutiens solides en Asie. Il y a 8 pays qui les soutiennent, hein, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Ils ont envoyé des représentants à l'occasion de la grande parade militaire ce samedi. Bref, autant vous dire que la répression va continuer. Et pendant ce temps-là, Aung San Suu Kyi est encore assignée à résidence. On parle de tout à fait autre chose et de choses beaucoup plus réjouissantes dans un instant. On écoute d'abord les Ogues de Barbac, le morceau c'est « Mon pays ».
Mon pays, c'est la belle vie, y a du soleil et des canards. Et même quand il y a de la pluie, on dit, oh ça c'est bon pour le navet noir. J'ai des arbres, par milliers des fleurs, et la mer n'est jamais loin. J'y amène nos cousines et sœurs, l'océan et notre jardin.
Mon quartier, c'est mieux qu'un pays, c'est un monde à lui tout seul. À 100 mètres, j'ai l'Algérie, des nomades, Tziganes ou Peul. Pas de tradition millénaire, encrassée, rigide et frileuse. La culture révolutionnaire, du métissage en musique heureuse. Je te chambre pour la danse.
Je te chambre pour le geste.
Je te chambre pour que ça balance.
Je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse. On chante pour le geste. On chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste.
Et mon voisin roule ses R et tu trouves ça très rigolo. Mais le tien sonne la misère qui déroule dans le métro. On dit où abandonner si Paris était capitale. Elles sont des sœurs, des pommes et des crèves, la fête qui ont que dalle.
Et si va, on va entraver, je vais t'apprendre notre patois. C'est la langue de la cité, c'est la chambre des gens d'en bas. Prends ta gova et fais-toi saisir, je te loge pour pas enlever. Tu voulais visiter Agadir, c'est Tosca, welcome au quartier. Je te chambre pour la danse.
Je te chambre pour le geste.
Je te chambre pour que ça balance.
Et je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse. On chante pour le geste. On chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste.
La pulido vido y a lo sole y lo feche grâce. Et qu'applausus tu m'as pulido, me fa venir tout conquinas.
Nos quartiers c'est tous les pays, nos pays c'est le monde entier. On partage la belle vie, pour les frontières pas le quartier.
Mon país, la pulido vido y a lo sole y lo feche grâce.
On partage la belle vie, pour les frontières pas le quartier.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
Y'a pas de quartier, y'a pas de frontières. Y'a pas de quartier pour les frontières.
On va chanter avec nos petits coups.
Allez, tous ensemble ça fait comme ça.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
Les Ogres de Barbac, mon pays, de retour en plateau avec Marie. Alors Marie, t'as été enseignante dans une école Montessori, c'était du côté de Lyon, c'est ça?
C'est ça, c'était à l'école Montessori de Lyon.
Combien de temps?
2 ans et demi.
Alors, on a une vague idée, hein, c'est sûr, mais est-ce que tu peux nous rappeler, nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est la pédagogie Montessori et qui est Maria Montessori aussi?
Alors, Maria Montessori, c'est une pédagogue italienne du début du siècle, qui est née au début du siècle et qui a mis en place donc la pédagogie Montessori, qui faisait partie d'un mouvement qui s'appelle les écoles nouvelles. Donc, il y a eu beaucoup d'autres pédagogues à cette période qui ont repensé un petit peu les façons de, d'enseigner. La pédagogie Montessori, disons que c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est, disons que moi je suis spécialiste, je suis formée sur le 6-12 ans, mais elle a commencé avec le 3-6. Donc elle a commencé en observant des enfants qu'on lui avait confiés et a remarqué des périodes sensibles à certaines notions, la répétition, la ritualisation. Elle a commencé à se rendre compte qu'il y avait dans le développement des enfants différents stades. Et elle a délimité différentes périodes sensibles en fonction des âges des enfants. Et c'est là-dessus qu'elle a construit une pédagogie qui était adaptée aux caractéristiques qui ressortaient le plus de ces différents âges, en fait.
Ça, en fait, c'est 0-3 ans, 3 ans, 6 ans, c'est ça, elle a catégorifié un peu comme ça, quoi.
Oui, disons que dans la pédagogie Montessori, il y a différentes classes. Donc, il y a le 0-3, donc l'enfant de 0 à 3 ans. D'ailleurs, il y a des formations pour être formé en 0-3. Il y a le 3-6 ans, qui correspond à l'école maternelle. Et le 6-12 ans, c'est un an de plus que l'école primaire classique, mais ça correspond au système classique. Et donc pendant ces 3 ans ou ces 5 ans, les élèves gardent normalement le même éducateur. Donc il y a beaucoup de choses qui changent dans la pédagogie, mais notamment les mots aussi, les mots qu'on emploie, on ne dit pas professeur, on dit éducateur ou guide. C'est vraiment l'idée de redéfinir le rôle de la personne qui enseigne, entre guillemets, puisque c'est pas la même façon de faire que dans le système classique. C'est pas la même approche.
On va rentrer plus dans le détail juste après, mais la question peut paraître bateau, mais est-ce qu'on devient prof, enseignant, guide, je sais pas, comme tu le disais, donc éducateur, dans une école Montessori, est-ce que c'est le même parcours qu'un prof, je dirais, lambda ?
Pas du tout, parce que Montessori, c'est des écoles qui sont hors contrat, ça veut dire qu'il n'y a aucune subvention de l'État. Donc elles sont complètement autofinancées, ben, en général, hein, c'est les parents, hein, c'est le prix que les parents vont payer pour, voilà, pour faire tourner l'école. Donc forcément, c'est pas du tout le même parcours, c'est complètement libre en fait, et ça dépend donc de l'association Montessori, l'ISMM, Institut supérieur... je sais plus, de Maria Montessori, voilà, ISMM, oui, c'est Institut supérieur de Maria Montessori, donc c'est une association, et c'est eux qui organisent les formations qui ont, enfin, voilà, il y a différents formats de formation, il y en a, pour le 6-12 par exemple, moi la formation que j'ai faite c'était sur une année civile, enfin une année scolaire. Et donc, voilà, après, il y a aussi à Archamps, Benoît Dubuc, c'est un formateur canadien qui fait ça depuis encore plus longtemps que l'ISMM de Montpellier. Et là, par contre, c'est pas le même format, c'est sur 2 ans, et c'est pendant les vacances scolaires. Mais ça revient à peu près au même nombre d'heures de formation, sauf que les personnes qui sont en formation là-bas, elles sont en poste souvent, ce qui est quand même assez bien parce que la théorie, elles peuvent l'appliquer dans la classe pendant qu'elles travaillent, donc c'est assez complémentaire.
Alors tu l'as abordé, hein, on va casser le cliché tout de suite. Évidemment, comme les écoles Montessori ne sont pas contractuelles avec l'État, tout est à la charge, donc voilà, les locaux, etc. Et c'est ça qui explique que c'est aussi cher.
Exactement.
Et c'est pas vos salaires.
Non, souvent les éducateurs sont payés, on va dire, au ras des pâquerettes.
On inspire, d'accord.
Bah, disons que suivant une convention collective qui fixe les salaires... presque au SMIC en fait. Donc c'est pas du tout les éducateurs qui sont très très bien payés, ce qui serait quand même une bonne chose parce que c'est beaucoup beaucoup d'investissement. C'est pas, enfin bon, quand on est prof à l'éducation nationale, j'imagine aussi, mais disons que là on est vraiment obligé de s'investir beaucoup parce qu'il y a beaucoup à construire, surtout en 6-12 ans, donc donc voilà, c'est rare d'être à 35 heures, voilà, c'est même impossible en fait.
Alors pour revenir justement à cette pédagogie, posons la base, l'enfant en fait devient maître de son apprentissage, c'est ça?
Alors il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, oui, on se base sur l'enfant, c'est pas l'enfant qui s'adapte à un système d'organisation donné, c'est nous qui nous adaptons à l'enfant, et la pédagogie est vraiment pensée pour s'adapter à l'enfant puisqu'elle est basée sur des périodes sensibles qui correspondent vraiment à son développement. Donc par exemple le 6-12, pour donner un exemple très concret, c'est vraiment une caractéristique importante, c'est l'instinct grégaire. Les enfants ont vraiment besoin d'être avec leur père, d'être ensemble, de collaborer, de travailler ensemble. C'est ça qui donne du sens. Ils sont à la recherche de ça. Ils construisent en fait finalement leur sens social. Ils ont beaucoup beaucoup à apprendre là-dedans. Alors qu'en 3-6, ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes puisqu'ils sont en train de se construire. Alors qu'en 6-12, les bases sont là et ils sont prêts à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir aux autres, et ils demandent que ça. Donc du coup, la manière dont la pédagogie est pensée, alors je prends l'exemple des mathématiques parce que c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est assez clair. Le matériel est fait pour être utilisé à plusieurs. Donc chacun a son rôle. Il y en a un qui va distribuer, il y en a un qui va faire la banque, il y en a un qui va noter sur le papier, ça va être l'écrivain. Et donc chacun a son rôle, donc chacun a sa place, et on interagit, mais en cohésion, puisque chacun sait ce qu'il doit faire. Mmh. Et tout le matériel que Maria Montessori a pensé, surtout en mathématiques, et penser dans cette idée de communauté, de travailler ensemble, de se distribuer, de se partager les rôles. Donc c'est en ça qu'elle a vraiment pensé à l'individualité des enfants dans la manière de créer la pédagogie. Après, oui, évidemment, partir de l'enfant, partir de ce qu'il aimerait, tout ça, c'est important. Après, ce n'est pas toujours possible dans la réalité, puisque, par exemple, normalement, une classe de 6-12, dans la pédagogie, comme Maria Montessori l'a pensé à l'époque, c'était 36 enfants et un ou deux éducateurs.
36 enfants ?
Voilà.
Mais waouh, enfin, je suis éberlué parce que 36 enfants avec des rythmes différents, avec un ou deux éducateurs, je me dis, mais là, il faut une attention absolument incroyable. Et justement, à partir du moment où on pense à l'enfant lui-même, comment on fait pour avoir autant, enfin, pour homogénéiser tout ça, je dirais ?
Eh bien, l'idée, c'est que le dispositif de classe qu'elle a mis en place, à travers plein de petits protocoles de classe, fait que ça roule tout seul, que les enfants s'aident les uns les autres, que c'est une espèce de machine un peu harmonieuse, une machine sociale qui fonctionnerait bien comme ça. Après, ça c'est la pratique, la théorie. Quand une classe est posée, ça veut dire qu'il y a le même éducateur depuis des années, les mêmes enfants depuis des années, qu'on intègre petit à petit des enfants qui viennent déjà d'école Montessori 3-6. Mmh. Voilà, ça peut rouler. Je pense qu'il y a des écoles aux États-Unis où vraiment ça roule très bien comme ça. Hein. Mais nous, en France, on innove. Ça fait pas très longtemps qu'on est dans la pédagogie Montessori, qu'on a des écoles. Il y a beaucoup d'éducateurs qui vont, qui viennent. Cet équilibre-là, moi, je pense qu'il est quand même assez rare au stade où on en est de la pédagogie Montessori qui est en train de se construire. Donc voilà, donc on est un peu... Il y a un idéal qui serait possible, mais voilà, il y a du travail encore.
C'est justement parce que c'est neuf que les pédagogies alternatives, hein, type Montessori, il y en a d'autres, ne sont pas plus utilisées dans notre système éducationnel aujourd'hui. C'est parce que c'est tout jeune en France.
Alors, il y a beaucoup de gens, oui, qui disent, oui, mais bon, voilà, Montessori, c'est vrai, c'est cher, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, autant... Enfin voilà, c'est les enfants qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas y avoir accès. Alors moi, ce que je réponds souvent à ça, c'est que, ok, mais le fait que ça existe, ça inspire. Parce qu'on en parle, parce qu'on en entend parler, parce qu'on a un collègue qui a mis son enfant dans l'école. Et du coup, ça crée de la réflexion, ça fait que les gens se questionnent plus, vont plus regarder, faire des recherches sur Internet, monter des blogs. Et que du coup, ça SM et petit à petit, ça se diffuse et ça se fait connaître. Et il y a des conséquences sur les gens qui sont dans l'enseignement, qui cherchent des façons de faire autrement et qui trouvent des réponses grâce à ça.
On avait reçu Nathalie, qui est directrice à l'Institut à Vébron. On la réécoute tout à l'heure. Elle utilise des manières d'enseigner qui vont dans ce sens-là. C'est plutôt dire que ça évolue quand même.
Oui, moi, je pense que ça évolue.
On est sur le bon chemin, quoi.
Oui, je pense, j'espère. Après, c'est toujours... oui, c'est vrai que financièrement, c'est compliqué pour ces écoles. Et c'est vrai que si l'État aidait, je pense que ça soulagerait beaucoup.
On les sent quand même un peu réticents à ce genre de pédagogie. Qu'est-ce que t'en penses ?
Disons que ça demande beaucoup de changements. Mmh. Et le changement, c'est pas confortable. Et après, il y a la pédagogie, puis il y a la réalité de l'application de cette pédagogie. Et ce n'est pas forcément une recette. C'est un ensemble de choses. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas été dans l'éducation nationale. Donc, je ne l'ai pas vécu de l'intérieur. Après, j'ai des amis qui ont fait Montessori et qui sont dans l'éducation nationale, qui en souffrent un peu parce que... Il y a des habitudes qui sont prises par les professeurs, hein, c'est normal, au bout d'un moment, et qui sont difficiles avec le temps à remettre en question. Et voilà, ça remet des choses qui sont un peu gravées dans les habitudes en question, et ça, c'est inconfortable pour les gens. Et puis, donc forcément... voilà, mais bon, après, je sais pas si l'éducation nationale est vraiment contre ou pour Montessori. Je sais qu'il y a dans beaucoup d'écoles maternelles, il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers Montessori. En tout cas, j'ai l'impression que ça a vraiment. C'est par ce biais-là que ça rentre dans l'éducation nationale. Pour le 6-12, c'est encore assez différent. Et ça a été développé par le fils de Maria Montessori, Mario Montessori, plus. Donc voilà, c'est moins rodé, c'est moins calé, et puis ça ressemble pas non plus au 3-6. C'est quand même très différent parce que les enfants, dans cette période sensible du 6-12, sont très différents des enfants qui sont en 3-6.
La question est complexe, celle que je vais te poser, peut-être ou pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est différent chez Montessori par rapport à d'autres pédagogies alternatives, type Freinet ou Steiner par exemple ?
Alors justement, je fais des recherches sur Steiner en ce moment parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors moi, à la base, je suis plasticienne, donc j'ai développé toute une pratique artistique pendant des années. Et c'est vrai que je me retrouve pas mal dans Steiner, parce que la créativité, ça a beaucoup de place pour lui dans le développement des enfants, enfin le développement personnel tout court. Mais donc du coup, chez les enfants, ça a vraiment beaucoup de sens et il laisse beaucoup de place à ça. Alors, dans les concepts, dans les idées entre Maria Montessori et Steiner, alors après les autres, je ne connais pas bien, Freinet, tout ça, je n'ai pas encore eu le temps de trop chercher là-dessus, mais il y a énormément de choses qui se recoupent, mais vraiment. Et des choses très, très subtiles, par exemple l'idée que le développement de l'enfant correspondrait... il crée des liens finalement entre le développement de l'homme à travers le temps. Les âges, la préhistoire, l'âge de fer. Et il y a vraiment tout un lien en fait entre les apprentissages et ce développement de l'humain dans l'histoire de l'humanité. Le rapport à la vie aussi, le rapport à l'humain comme un être qui fait partie d'un tout, qui est en interaction avec un tout où vraiment le monde est connecté et on connecte toutes les matières les unes avec les autres. Enfin, il y a vraiment une pensée très, très holistique, en fait, dans les deux. Et voilà. Alors après, c'est la grande différence que moi, je constate, c'est la manière. C'est la manière dont on s'y prend. Et donc, c'est l'organisation très concrète de la classe et des temps de classe. Donc, chez Steiner, c'est beaucoup plus... Comment dire ? C'est beaucoup plus structuré, on va dire. Le matin, c'est les apprentissages classiques, 2 ou 3 heures d'apprentissage classique, les mathématiques, le français, l'histoire, les bases en fait. Donc là, c'est des cours en classe entière. Et on suit le professeur. Donc il y a quelque chose, un côté un petit peu académique dans la forme. Et les après-midi sont consacrés plus à la danse, le théâtre, le bricolage, la création. Voilà. Et je trouve que c'est une façon quand même... très structuré d'organiser de mêler les bases obligatoires, hein, les maths, le français, enfin je veux dire c'est des choses on est obligé de on est obligé de savoir compter, on est obligé de savoir écrire, donc ça forcément il les faut, et en même temps le développement de chacun selon des projets plus ou moins personnels, créatifs, manuels, en sachant que les enfants, c'est vrai que j'ai beaucoup constaté ça en 6-12, ils ont énormément besoin de faire des choses avec leurs mains, le manuel, l'artistique, ça a un pouvoir sur eux qui c'est très puissant. Donc je trouve cette forme d'organisation vraiment très très pertinente. Alors qu'en Montessori, c'est pas du tout structuré de cette façon-là, j'ai envie de dire, il y a plus de liberté qui est donnée aux éducateurs dans l'organisation de l'emploi du temps, ce qui est bien et ce qui est un peu déstabilisant aussi, surtout quand on commence, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont en lien les unes avec les autres, et c'est vrai qu'on ne sait jamais quel fil tirer, par quoi commencer. Alors les plus jeunes, est-ce que c'est mieux de les habituer à des rituels, ou est-ce que c'est mieux de commencer par des histoires, parce qu'il y a beaucoup l'idée de passer par les histoires, par la narration, par le fait de marquer les esprits par rapport à des concepts ou des idées qui fascinent vite les enfants. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus plastique, on va dire, chez Maria Montessori, quoi. C'est plus il faut expérimenter, il faut voir. Et puis bon, voilà, c'est moins calé que Steiner de mon expérience, moi, de débutante, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette pédagogie. Et donc voilà, je, j'ai vraiment fait la transition, un an de formation et puis tout de suite travail en classe directement. Donc voilà, entre la théorie et la pratique, il y a vraiment du travail, du temps passé et de l'expérimentation à faire pour se rendre compte des réalités qui en plus sont à chaque fois différentes en fonction des écoles, des enfants, de l'environnement autour. Donc voilà.
La pédagogie Steiner, en tout cas, qui est utilisée en Allemagne et en Autriche, j'ai la chance d'avoir des amis là-bas qui ont suivi. Cet emploi du temps, comme tu disais, le matin, des cours entre guillemets traditionnels, et l'après-midi, liberté quasi totale, l'art, le sport, etc. Et ça fonctionne d'une manière géniale, quoi. Enfin, c'est top. En tout cas, aussi dire que les pédagogies alternatives, il n'y a pas de punition, pas de récompense. La plus belle des choses, c'est de voir l'enfant évoluer et peut-être des acquis de compétences. Comment ça fonctionne?
Des acquis de compétences, c'est-à-dire?
Par rapport à ce que l'enfant reçoit, en fait.
Disons que on n'est pas dans le cause à effet. Hein. C'est ça aussi qui est un peu peut-être difficile dans l'éducation. C'est pas parce que un enfant, je sais pas, il s'est disputé avec son copain, il dit tu t'excuses, et là, déjà l'enfant il va rien en comprendre en fait. Alors que si on lui dit trois bons mots, peut-être qu'il va y réfléchir et puis ça va faire son chemin et puis que trois ans après il aura compris et parce que ça l'aura marqué une attitude, un moment, les trois bons mots au bon moment. Et nous on ne verra pas ça. On ne verra pas le résultat de ce qu'on lui a dit. Et c'est ça qui peut être très frustrant, en fait, c'est de ne pas forcément voir le résultat tout de suite. Et c'est vrai que dans les pédagogies traditionnelles, on est dans un cause à effet, un rapport très chronologique. Je fais ça, j'ai le résultat de ça, je fais ça, très causal. Et ça ne marche pas comme ça le rapport au monde, ce n'est pas ça. On n'est pas des machines. Et c'est déstabilisant parce que ce n'est pas mesurable. Voilà, faut faire confiance en fait, faut faire confiance à l'humain, à sa capacité de comprendre, à la relation qu'on a construite avec lui. Et voilà, et c'est ça qui est souvent difficile aussi pour les parents. Moi, c'est ce que j'ai vraiment constaté en tant qu'éducatrice, c'est de pas voir tout de suite le résultat. Je sais pas, moi, il est en CE1, il arrive toujours pas à faire les soustractions dynamiques, il comprend pas l'échange, est-ce qu'il a un problème? Et ça les stresse, ça stresse les enfants. Et voilà, alors que peut-être que il suffit d'un petit déclic, d'un petit rien, et tac, tout d'un coup, il va comprendre. Et voilà, alors que le stress de ses parents vont créer un blocage, et là, c'est fini les mathématiques. Donc il y a vraiment un rapport de confiance au fait que de toute façon, il va chercher à se développer. Son objectif, c'est le même que celui de ses parents, hein. C'est que ça fonctionne, en fait. Et il va chercher à se développer, il va chercher, les réponses qu'il va pouvoir. Mais voilà, l'idée, c'est de l'accompagner et de ne pas lui mettre notre pression. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours mesurer quand est-ce qu'il va s'y mettre aux soustractions, quand est-ce que... Voilà, il faut faire confiance, il faut accompagner et... Il faut beaucoup observer aussi. Et c'est ça, voilà. C'est là où c'est pas toujours simple avec 36 enfants, justement, de pouvoir les observer suffisamment pour trouver le bon moment où on peut leur présenter quelque chose, pourquoi ils sont prêts ou pourquoi ils ont montré de l'intérêt. Il faut beaucoup de disponibilité, en fait.
Et puis il est temps aussi peut-être qu'on sorte de cette société qui nous met en compétition dès le plus jeune âge en prenant l'excellence. Je veux dire, comment on en est encore là aujourd'hui en 2020 T1 d'ailleurs même.
Ouais, les enfants, ils sont... Enfin moi en tout cas, dans mon expérience à Lyon, les enfants étaient beaucoup en compétition déjà jeunes quoi. Après, comme pourquoi est-ce que c'est leur environnement? Enfin oui, moi je pense que c'est l'environnement de toute façon, même si on c'est pas les principes qu'on va leur donner en classe. Il faut déconstruire ces principes-là d'être meilleur que, parce que c'est des moteurs aussi. Hein, et c'est vrai que je peux comprendre que dans l'éducation nationale ou quand on est parent ou ça fonctionne en fait. Hein. Ça fonctionne parce que c'est des moteurs. C'est des moteurs pour eux. Mon copain, il a fait ça. Je vais faire mieux que lui. Alors, c'est pas forcément mauvais, d'ailleurs. Hein. C'est stimulant aussi. Il y a compétition et compétition. Il y a se stimuler l'un l'autre, ce qui peut être une bonne chose. Et il y a vouloir être le meilleur. Enfin voilà, voilà, il y a des entre-deux à trouver, je pense. Il y a du bon dans tout, mais il faut trouver, enfin voilà, il faut trouver l'équilibre dans la manière de le faire et pas être dans les extrêmes non plus, quoi.
Ouais, disons-le, autant le dire, il y a aussi des choses très positives dans le système pédagogique, je dirais traditionnel.
Bien sûr. Bah oui, c'est pas, voilà, c'est pas une méthode, c'est des humains et c'est. Et c'est comment je m'empare de principes, d'idées, parce que dans l'éducation nationale, il y a plein d'approches. Et chacun va puiser dans une approche, par exemple pour la lecture ou pour d'autres choses, hein, qui lui convient. Donc il y a quand même une certaine liberté. Il y a une liberté pédagogique. Les instituteurs, ils sont seuls dans leur classe, donc ils sont un peu maîtres du jeu. Alors ils sont contrôlés peut-être tous les ans, mais bon... Je veux dire, ils sont quand même tranquilles dans leur classe, quoi. Alors que c'est vrai qu'en Montessori, c'est rare d'avoir un seul éducateur par classe. Et il faut savoir collaborer avec ses collègues. Et ça, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que dans l'éducation nationale, je me suis toujours dit ça, au moins ils n'ont pas ce problème. Et c'est pas rien.
Ah, c'est passionnant. Alors, le cachons pas, tu es jeune maman, hein, félicitations.
Merci.
Est-ce que c'est toi qui feras l'école à ton enfant ? Est-ce que tu y as réfléchi ? Est-ce que tu vas le mettre dans une école Montessori, sachant que ça coûte une blinde ? Et donc, comment tu... Et d'ailleurs, est-ce que s'il y a des jeunes parents qui nous écoutent, comment on pense à ça, justement ? Et est-ce qu'on y pense déjà relativement tôt ?
Alors c'est rigolo parce que hier on en discutait justement de ça. Est-ce que moi je ferais la classe à mon enfant ? Alors j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de ça. Donc je vois que c'est très compliqué d'avoir à la fois la posture de l'éducatrice, de la maîtresse et de la maman par rapport au père en fait. Pour les enfants... Ça peut être assez compliqué. Oui, c'est ma maman, c'est ma maîtresse. J'ai un lien privilégié avec elle, mais elle ne veut pas que ça se voit. Enfin, je pense que c'est pas forcément... Je pense que ça peut être un peu déstabilisant pour un enfant d'avoir sa mère comme éducatrice parmi d'autres enfants. Mmh. Après, j'ai des exemples de personnes qui ont fait l'école à la maison. Donc, dans ce cas-là, c'est seule à seule avec les enfants. Et là, je pense que c'est moins compliqué. Et je pense que éduquer son enfant aussi, c'est créer un lien un peu particulier avec lui, un lien fort, puisque le rapport à la connaissance, c'est quand même une source de bonheur, d'épanouissement. Donc, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, parmi d'autres enfants, je pense que c'est un statut un peu difficile. Donc, moi, après, c'est toujours pareil, j'ai pas d'idée arrêtée sur les choses, ça dépend toujours du contexte. Moi, j'ai rien contre l'idée de mettre mon enfant dans le système classique, parce que c'est important de se sociabiliser, de s'intégrer au lieu où on est, et puis ça peut très bien se passer. Ça dépend tellement des enfants, en fait, que voilà. Si je vois qu'elle est malheureuse dans le système classique, qu'il n'y a pas de réponse pour elle, qu'elle n'arrive pas à trouver sa place, qu'elle ne rentre pas dans les cases. Ben voilà, je pense que là, les pédagogies alternatives, elles peuvent beaucoup soulager. Mais voilà, ça dépend des enfants, des budgets, de beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'en soi, moi, je verrais bien. Je n'ai pas forcément les moyens, c'est clair, hein, de la mettre dans une école alternative. Après, tout ce qui est création, créativité, ouverture sur le monde... Enfin voilà, on peut très bien le faire en dehors de l'école aussi. Hein.
C'est clair. En tout cas, auditeurs, auditrices, si les pédagogies alternatives vous intéressent, je vous conseille une excellente émission qui a été diffusée sur Arte qui s'appelle Révolution École 1918-1939, où en fait, ça contextualise vraiment dans quelle période de l'histoire ça a été créé. C'était absolument passionnant. Merci Marie.
De rien.
D'être venu nous parler de tout ça. Vivement tes émissions ici sur Radio Bartas. Ce sera dans quelques semaines. On vous tiendra au courant, auditeurs, auditrices. On réécoute d'ailleurs Nathalie dans un instant pour continuer de parler de tout ça. On écoute d'abord Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Le morceau, c'est Mais je t'aime. Merci Marie, à bientôt.
pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous, on a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime.
Je t'aime,
je t'aime,
je t'aime.
Mais je t'aime,
je t'aime,
je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
M'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime
du plus fort que je peux.
Nous sommes ce matin avec Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Tu es directrice et prof des écoles à Vébron, chantre de la pédagogie alternative ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, question simple d'abord, enfin simple, c'est à voir. Qu'est-ce qu'on appelle la pédagogie alternative?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle la pédagogie alternative? D'abord, est-ce qu'il y a une pédagogie alternative? Ça, c'est toute une question. Est-ce que ça existe, ça? Ou est-ce c'est que c'est pas un concept né de nos esprits fumeux? Non, alors, alternative, ça suppose qu'on essaye de faire différemment. Différemment d'une tradition. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est un peu tous dans cette démarche-là, d'essayer de trouver de nouvelles voies pédagogiques, parce qu'on s'adapte à une vie qui change, et que donc finalement, on est un peu tous enseignants dans des recherches d'alternatives. C'est-à-dire que la classe telle qu'elle a été envisagée au départ, avec un enseignant qui parle à 30 enfants qui écoutent, qui prennent des notes et puis qui retranscrivent le savoir, ça n'existe plus nulle part. aujourd'hui. Ça a existé, ça n'existe plus. Et donc, je crois qu'on est tous en recherche de manières d'enseigner différentes qui visent à rendre l'enfant plus actif, plus acteur de ses apprentissages, plus en prise avec le sens de ce qu'il apprend. Et c'est juste une adaptation pour moi de l'évolution de notre société et de nos exigences par rapport à l'éducation et l'instruction de nos enfants.
On va détailler un peu plus ça tout à l'heure. Tu es à l'école de Vébron depuis combien de temps ?
Je suis arrivée à l'école de Vébron en 2006, septembre 2006, et je venais de Montpellier où j'avais enseigné à la Paillade en ZEP pendant 2 ans dans une école qui pratiquait une pédagogie dite alternative, où toute l'école suivait des pédagogies coopératives, représentées par Freinet, mais pas que, et où on essayait justement de mettre en place dans ce territoire un peu particulier ces pédagogies-là.
Coopérative, c'est vrai que c'est un bon mot alternatif qui marche pour pédagogie alternative finalement.
Oui.
Est-ce que dès le début de ta carrière, tu as voulu pratiquer cette pédagogie en fait, enfin t'es allé sur ces systèmes-là?
Oui.
Ouais, direct, donc t'es pas allé vers des chemins plus conventionnels parce que finalement t'as dû suivre des études et on apprend quand même un système un peu plus traditionnel entre guillemets.
Oui, alors moi j'ai eu la chance pendant mes études à l'IUFM, maintenant ça s'appelle ESP, mais je suis vieille, donc c'est l'IUFM, d'avoir la possibilité de suivre un parcours qu'on appelait un parcours différencié, donc chaque dans son parcours de formation, un point d'apprentissage qu'il avait envie d'approfondir, et moi j'ai choisi la pédagogie Freinet à ce moment-là. Et donc j'ai découvert cette école à la Paillade où j'ai été affectée après, qui pratiquait cette pédagogie-là. Alors pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite su, pendant que j'étais enseignante, que je voulais pas reproduire ce que moi j'avais vécu enfant, c'est-à-dire que je m'estimais être la plus grande réussite de l'institution traditionnelle, c'est-à-dire que j'avais été la bonne petite élève pendant toute ma scolarité, la première de la classe, etc. Et je voyais bien que j'étais une coquille vide. C'est-à-dire que j'avais pas le goût de l'apprentissage, j'avais pas le goût de la curiosité, j'avais réussi tout mon parcours scolaire juste parce que j'avais su apprendre et faire des contrôles et réussir les contrôles. Voilà, en gros, hein, je simplifie, je caricature, mais du coup, j'avais l'impression de pas être riche intérieurement et j'avais pas envie d'enseigner comme ça. Je me suis dit, la meilleure chose que l'école traditionnelle puisse produire, c'est moi, eh ben, c'est un gros échec, en fait. Même si extérieurement, tout le monde se dit, waouh, quelle réussite, ben, en fait, non.
T'estimes qu'en fait, dans l'école, entre guillemets, traditionnelle, y a une espèce de manque de curiosité. On va pas assez vers la découverte du monde et des choses qui nous entourent.
Ouais, mais en fait, c'est en tout cas tel que je l'ai vécu moi. Hein. Moi, j'ai vraiment été éduquée de façon très très traditionnelle, dans un système très traditionnel. Enfin, j'ai 44 ans, hein, donc ça date. Mais c'est vrai que l'enseignement tel qu'il était pratiqué était très classique. Donc on avait par exemple une leçon, après derrière des exercices d'application, et puis derrière on nous évaluait. Alors je prends toujours un exemple, parce que j'accueille des étudiants de l'ESP aujourd'hui à qui je parle de ça, et je prends toujours l'exemple de l'addition à retenue. Moi j'ai fait des milliers d'additions à retenue en faisant une retenue sans jamais comprendre qu'est-ce que c'était que cette retenue. Tu vois, j'ai appliqué, j'ai compris, voilà, il y a une retenue, on la met dans la barre des dizaines et puis on additionne tout ça. Et quand je suis arrivée à l'ESP, l'UFM, que j'ai appris à être enseignante, j'ai compris que en fait, cette retenue, c'était une dizaine qu'on avait fabriquée et que du coup, on la mettait dans la colonne de dizaines parce que c'était une dizaine. Et là, je me suis dit, mais je suis passée à côté du sens, en fait. J'ai appris des techniques que j'ai surproduites parce que j'avais une très bonne mémoire, mais c'est tout. Et je n'avais pas du tout envie de former mes élèves comme ça.
Alors justement, tout le monde en vante hein, les mérites. Tu le disais tout à l'heure que effectivement tout le monde tend un peu sur ces pédagogies pour sortir un peu du système traditionnel. Mais finalement, on s'aperçoit quelque part que c'est encore difficile à l'imposer, si tant est qu'il faut l'imposer en fait.
Non, pas l'imposer.
Voilà, dans l'éducation traditionnelle. Mais comment ça se fait, en tout cas, même si c'est pas l'imposer, comment ça se fait que
encore peu d'enseignants se tournent vers ce système-là, et qui plus est, l'éducation nationale au sens propre du terme.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que
avec
tu dis.
Plaisir.
Moi, je trouve, alors, peut-être que je suis en réseau avec beaucoup d'enseignants qui font partie de ces enseignants qui sont en recherche. Donc, moi, vraiment, je vois beaucoup d'enseignants en recherche, beaucoup d'enseignants qui cherchent justement à tendre vers ce sens qu'on cherche à donner aux apprentissages. Parce qu'on se rend bien compte que l'autre façon d'enseigner ne produit pas de résultats. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui se démotivent, qui comprennent pas ou qui n'apprennent pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment, vraiment un élan vers un besoin d'enseigner différemment. En tout cas, les réseaux dans lesquels je suis, j'observe ça. Et puis l'éducation nationale, au niveau institutionnel aussi, moi je trouve ça vraiment plein d'espoir de voir que des techniques qui ont été initiées par ces mouvements-là, je pense par exemple aux messages clairs qui sont une façon de résoudre de façon non violente les conflits, on les trouve maintenant dans les programmes scolaires. Si tu tapes sur EduSchool message clair, tu as une double page qui t'explique ce que c'est qu'un message clair. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans l'institution. L'institution a quand même à un moment donné fait sienne ces techniques-là, le conseil de classe aussi. C'est pareil, il apparaît dans les programmes scolaires. Chercher à donner du sens et à ancrer les apprentissages avec de la pédagogie de projet, ça aussi, ça apparaît. Donc je pense que tout le monde est en train d'évoluer. Tout le monde évolue après à son rythme, à des vitesses différentes certainement, mais on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, après je ne dis pas ce qui se passera dans l'avenir, j'en sais rien, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi j'observe quand même qu'on peut tout à fait se saisir des programmes de l'institution publique et en faire quelque chose de très novateur.
Alors tu parlais du réseau dans lequel tu étais, évidemment, puisque comme c'est des pédagogies de partage, forcément tu partages beaucoup. Est-ce que tu remarques que ça va être plus dans les petites et moyennes sections, c'est-à-dire école maternelle, école primaire? Est-ce que ce serait possible en collège et lycée? Est-ce que d'ailleurs tu as des collègues qui le pratiquent en collège et lycée? Je vais juste faire une petite parenthèse, puisqu'en Belgique, j'en avais fait une émission ici sur Radio Bartas, hein, ils ont une longueur d'avance. À Bruxelles, c'est un collège et un lycée, 500 élèves environ qui sont dans un établissement à pédagogie alternative. La structure, c'est 100% public, 100% gratuit. Est-ce que c'est possible en France? Est-ce que tu connais des structures qui fonctionnent comme ça?
Alors, pas des structures qui fonctionnent complètement comme ça, mais c'est souvent des projets d'équipe. Le secondaire ne fonctionne pas du tout de la même façon que le primaire. Alors, tu dis moyenne section, c'est pas... Enfin, pour nous, c'est premier degré et second degré. Donc, le premier degré, il part de la petite section, le maternelle, toute petite même, jusqu'au CM2. Donc, effectivement, dans le premier degré, on a une certaine aisance à se lancer là-dedans parce qu'on est tout seul, responsable d'une classe avec des enfants qu'on a 6 heures par jour, 4 jours par semaine. Les collègues qui se retrouvent dans le second degré, ils ont une problématique qui est complètement différente. C'est-à-dire que déjà, leurs cours sont saucissonnés. Enfin, ils ont une heure de français ou deux heures. Et puis ensuite, l'élève change de lieu et d'enseignant. Donc, ça veut dire que pour mettre en place ces pédagogies-là, il faut qu'il y ait une équipe qui se rencontre autour d'un projet et qui essaye d'avancer dans ce sens-là. Alors, ça, c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup, mais par contre, ça existe. Il y a vraiment des équipes qui se mettent au travail. Je sais qu'au Vigan, il y a des gens qui travaillent un peu comme ça, et que sur Montpellier également, et pas que, hein, de ce que je connais, mais voilà, ça dépend après, à un moment donné, c'est une équipe qui va se retrouver, qui va se fédérer autour de ça, mais ça arrive, je pense aussi à des collègues que j'ai eu l'occasion de rencontrer, pour des missions auprès de la CARDI. Donc la CARDI, c'est une cellule académique d'innovation où on va suivre des projets innovants. Et justement, quand on ouvre la porte de cette CARDI, on s'aperçoit que des collègues qui réfléchissent et qui avancent et qui construisent de la différence, il y en a partout, quoi.
Évidemment, donc tu disais que finalement le ministère de l'éducation tend vers des choses un tout petit peu différentes, mais on doit en parler, donc ta hiérarchie, le rectorat et autres, quand on parle d'éducation nationale, c'est quand même une grosse cylindrée, quoi. Bon, comment ça se passe tes rapports avec eux justement?
Mais c'est des rapports humains, donc c'est très variable. C'est-à-dire que là, bah là aussi, c'est pas une institution. Une institution, c'est à la base relayé par des humains. Donc en face, t'as des humains. Donc selon effectivement le supérieur hiérarchique que t'as, l'inspecteur d'éducation nationale ou le DAZN, le directeur académique, selon eux, les valeurs qu'ils portent, le travail est pas du tout le même. C'est vrai que là, en ce moment, on a depuis quelques années, sur la circonscription de Florac, des inspecteurs qui arrivent et qui sont dans cette dynamique d'avoir envie de promouvoir ces pédagogies-là. Donc là, moi, actuellement, je me sens très à l'aise et très soutenue par ma hiérarchie. Mais il suffit que quelqu'un d'autre arrive et puis la posture sera complètement différente. Donc c'est vrai que c'est vraiment lié aux personnes qui vont faire vivre une circonscription. Il n'y a pas une posture qui est égale partout.
Ça fait du bien à l'entendre quand même quand tu dis que tu te sens soutenu. Enfin, je me dis que ça doit vraiment tous les jours te dire « ouais, je suis motivé à continuer ce boulot ». Parce qu'on entend quand même aussi beaucoup d'enseignants, et c'est pas une généralité toujours, mais se dire « bah c'est compliqué de bosser ». Toi, tu te sens vraiment bien là-dedans.
Alors actuellement oui, voilà, actuellement oui, ça veut pas dire que ça va rester tout le temps comme ça, mais c'est vrai que en tout cas dans ma carrière, si je regarde, bon, elle est courte, elle a que 20 ans, mais dans ma carrière, j'ai toujours rencontré des gens qui ont été favorisants. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance, mais je sais et je côtoie des collègues qui n'ont pas du tout eu cette chance et qui ont été empêchés, qui ont les mêmes pratiques que moi, et qui vont avoir un inspecteur qui va venir les casser sur leur pratique. Donc c'est vraiment très très contextualisé ce que je te dis. Il n'y a pas de généralité possible. Donc voilà, moi j'estime avoir eu de la chance. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais oui, à l'heure actuelle, je me sens soutenue. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que depuis le début de mon exercice, j'ai pas eu à souffrir de ça.
Le temps passe très vite avec toi. Je pense que vraiment, on se prendra du temps avec Radio Barthès de faire une... vraiment, pourquoi pas réunir des instits, des profs, pourquoi pas le recteur à Barthès pour faire un gros plateau. Ce serait vraiment intéressant. Il me reste quand même deux questions à te poser sur justement Freinet, Steiner, Montessori, qui sont des méthodes pédagogiques, hein, pour les plus connues, entre guillemets. En général, on voit aussi que c'est des écoles privées et que c'est abominablement cher, en fait. Est-ce qu'on pourrait changer ça, étendre et arrêter, en fait, que ce soit des écoles privées ou...
Oui, mais ça, je pense qu'on va tendre vers ça. Il y a beaucoup de pédagogies qui ont été relayées par le privé parce que le privé est venu pallier un manque dans le public et a raison parce qu'il y était. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans cette configuration, qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont dans le public, qui sont aguerris à ces pratiques-là, qui s'y intéressent. Il y a beaucoup d'écoles en Lozère qui mettent en place de la pédagogie Montessori, de la pédagogie Freinet. En fait, on peut pas être catalogué dans une seule catégorie, c'est pas le but. Le but, c'est la réussite des élèves. Alors après, on va faire notre cuisine, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu dans chaque pédagogie qu'on trouve quelque chose qui nous paraît pertinent pour amener les élèves vers la réussite. Et ensuite, on pourrait interroger le mot réussite. Hein, qu'est-ce que ça veut dire réussir en tant qu'élève ? Ouais. Donc la réussite sur le plan des savoirs, mais aussi savoir-être, savoir-faire. Voilà, c'est toute cette personne qu'on va essayer d'éduquer, d'instruire, d'élever. Et du coup, on va s'inspirer de beaucoup de choses. Là, moi, il y a une vague sur laquelle j'espère qu'on va surfer aussi, parce que c'est une vague qui est très prometteuse en termes d'apprentissage, de savoir-être, de savoir-faire, c'est l'éducation dans et par la nature. Et là, c'est pareil, à Florac, on est tout un réseau, on est une dizaine d'enseignants qui sommes en recherche, dans une recherche-action, grandir avec la nature, où on se questionne, où on mutualise nos pratiques, etc. Et on voit que c'est vraiment un environnement qui est très prometteur en termes d'apprentissage et qui est relayé déjà par certaines pratiques privées. On voit des forest schools qui vont fleurir et j'espère que l'éducation nationale, on va réussir à vraiment proposer ces services-là au public parce que évidemment on touche beaucoup plus d'enfants quand il n'y a pas cette barrière financière à l'entrée de l'école.
C'est sûr. Bon, évidemment, en tant que directrice, je ne peux pas te poser la question. On va parler du déconfinement. Est-ce que tu as des infos sur comment ça va se passer pour toi et ton école à Vébron ?
Pas encore, mais bientôt. On va avoir tout ça est en réflexion et on va avoir une conférence la semaine prochaine avec la hiérarchie et les autres enseignants. Donc à partir de ce moment-là, on aura plus d'infos. Pour l'instant, on ne sait pas encore.
Ah, merci beaucoup, ça fait vraiment du bien. On va faire une petite interview détente de confinement, pour finir. Je suis déjà dans le déconfinement, moi c'est fou. Est-ce que tu as une chanson que tu écoutes pendant ce confinement ?
Alors, une chanson que j'écoute régulièrement, mais c'est pas spécifique au confinement, parce que c'est une chanson qui me porte, c'est Jeff Buckley, Alléluia. Mmh.
Dont l'original est fait par Leonard Cohen, mais qui est absolument merveilleux par Jeff Buckley. Un livre que tu conseillerais à nos auditeurs, auditrices ?
Que je conseillerais, je ne sais pas s'il est transposable. Là, j'ai relu pas mal de livres en fait que j'avais déjà lus. Mais donc là, en ce moment, je relis Le Très Bas de Christian Bobin, qui est vraiment un livre pour moi que très nourrissant, voilà. Et j'ai relu aussi un livre qui m'a beaucoup porté, qui m'a aidé à venir ici. Alors c'est vraiment un témoignage assez sociologique, mais il s'appelle « Femmes seules retirées loin des villes » de Françoise Lapeyre. Et c'est des témoignages de femmes qui vivent toutes seules dans des endroits improbables. Voilà, ça c'est des livres qui me portent. Et puis Giono, je crois que voilà, l'homme qui plantait les arbres, ça, c'est propice à ce temps-là de dénuement.
Tu m'étonnes. Et enfin, pour finir, un film ou une série
Alors là aussi, c'est un film qui m'a porté vers ce retour à aujourd'hui, là où je suis, et je me félicite qu'il m'aide. Ça s'appelle « C'est quoi la vie ?» de François Dupeyron, et c'est le cheminement d'un agriculteur qui va revenir à une façon de travailler simple.
Et c'est vrai qu'en ces moments, revenir à des méthodes de production différentes, ça peut vraiment faire du bien.
C'est ça, c'est ça. Et c'est, voilà, c'est tout. Je trouve que ça nous invite vraiment à se centrer sur l'essence, quoi. Et c'est, voilà, ces films et ces ouvrages-là, c'est des choses qui sont inspirants, je trouve.
Merci beaucoup, Nathalie.
Avec grand plaisir.
Je rappelle que tu es directrice et prof des écoles à Vébron. À bientôt et bon courage pour la fin de cette période assez étonnante.
Voilà, vous l'aurez compris, c'était une rediffusion d'une interview que j'avais faite de Nathalie l'année dernière qui parlait de pédagogie alternative, chose que je trouvais intéressante de rediffuser. Évidemment, il y avait plein de choses qui n'étaient plus d'actualité, quoique, en espérant qu'on ne soit pas reconfinés fin de semaine, croisons les doigts. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve mercredi notamment avec des sons de la manifestation à laquelle on était hier, la manifestation pour le climat qui a réuni une centaine de personnes, c'était pas énorme. C'est la fin de cette matinale, merci Corto. Je le réveille.
Avec plaisir, Ben, comme toujours, hein, tu sais.
On se retrouve mercredi. Merci à toutes et tous de nous suivre. Passez une excellente journée. On se quitte avec Rock It Down, un morceau de Va-Nu-Pieds. Tiens, allez, bonne journée à tous. Ciao.
Say jump, jump, go over on face, son. You're like a thorn. Step on, son, no walk alone. Go over on play on. Get the fun, then run. Don't do all alone, do all alone. Go over on face, son. You're like a thorn. Step on, son, no walk alone. Go over on play on. Get the fun, then run. Don't do all alone. Yes, I had them say them are running so far.
Day and night we just find a better way we fight. This is the jump and vanity pair of the shop PlayStation. Doing this the music them.
Day and night with my them I sing my music. Free all of them and I sing about my music. This is a song I'm blowing up to my mind. This is a song I'm blowing up to my soul.
Let your heart them follow the reason. When the voice give you emotion. Because the music rocking my world
is never getting old. They never getting old. Them, I want me them inside them. Me day and night, me singing about my reggae music. Me all of them, me you sing about the music. That's the power of reason. If I love the right, me day and the night, me just playing the music.
This is the song coming from to my mind. This is the song coming from my soul.
This is the song rocking, rocking to my bone. This is the song rocking, rocking to my bone. This is the song burning them in Africa. Well, them right away you rise up in the Jamaica. This is the song burning in Africa. Well, the right away you rise up in Europe. Well, them everywhere you go, them the people dance the music. Everywhere you been, the people dance the music.
Well, them singing about my peace and love. Unity, well, I'm gonna sing about the peace and love and unity. Well, I'm gonna just live in simple and I'm gonna be the humility, simplicity, way of my life. Sing about the peace and love and unity. Yes, big up to my brother.
It's a long time. This is the music coming from the heart and the soul.
Hey.